Père François Marot, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous pour une nouvelle émission sur la liturgie.
Je suis très heureux de continuer avec vous. Voilà, donc je vous rappelle donc ce souhait que j'ai de vous présenter la constitution sur la liturgie du Concile Vatican II, que je synthétise, que je résume, en lien avec mon expérience de pasteur en paroisse. Voilà, c'est ça le sujet, pasteur en paroisse depuis une bonne trentaine d'années. Voilà. Et je souhaite. Alors, j'ai déjà commencé à dégager les points principaux qui me semblent vraiment les points saillants de cette constitution sur la liturgie, qui s'appelle Sacrosanctum Concilium, et qui ont inspiré ma vie liturgique, moi en tant que pasteur et avec ma communauté. Voilà donc l'idée que je souhaite échanger et partager avec vous.
Merci, Père.
Alors, je vais tout d'abord résumer un tout petit peu la première présentation que j'ai faite il y a quelque temps, maintenant, il y a 2 mois, puisque très, très rapidement. La première chose qui me semblait essentielle et qui est vraiment au cœur de cette constitution, dans l'esprit et dans la lettre des Pères du Concile, c'est que la liturgie soit vraiment un chemin vers l'intériorité, bien évidemment en passant par tout un déploiement de ce qu'on appelle la liturgie, c'est-à-dire les chants, les gestes, les lieux, enfin, tout ce qui concerne, on peut dire, nos 5 sens, que ce soit tout ce qu'on entend, tout ce qu'on chante, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on médite, etc. Et tout ça orienté vers l'intériorité. Et là, on est vraiment au cœur à la fois de la liturgie et de l'Évangile, bien sûr, puisque la liturgie est une, on peut dire, une mise en œuvre à la fois de l'enseignement et de la vie de Jésus. Alors, j'étais parti d'une citation de la première épître de Pierre, de Saint-Pierre, qui, à mon sens, exprime en quelques mots, hein, de façon assez géniale et très claire, très simple, ce que c'est finalement que la liturgie, à partir du baptême, puisque vraiment le baptême c'est la source. Hein. Et voilà ce que dit Saint-Pierre. Donc le baptême, qui nous sauve, n'est pas la purification d'une souillure charnelle, mais l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience vis-à-vis de la résurrection de Jésus-Christ qui est passé au ciel. Voilà, on peut dire que là, il y a vraiment tous les éléments. Le baptême n'est pas simplement quelque chose d'extérieur. Bien sûr, il y a tout ce, encore une fois, ce déploiement de la purification par l'eau, puisqu'on est baptisé dans l'eau et l'Esprit-Saint, comme dit Jésus. Dans un autre passage, Jésus dira pas simplement par l'eau, mais par aussi par le sang. Donc c'est là qu'on voit que le baptême est vraiment lié aussi au mystère pascal, bien sûr, au mystère de la passion et de résurrection de Jésus. Donc c'est l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience. Donc il y a vraiment cette intériorité qui est mise en avant par rapport à Jésus, mort et ressuscité, et dans une dimension d'espérance du ciel. Voilà. On avait médité à ce propos, justement, la belle parabole du pharisien et du publicain. Le pharisien qui se présente un peu comme un bon catho, si, pour prendre une façon actuelle de parler, qui est pratiquant, il se décrit comme quelqu'un qui donne son denier de l'Église, qui jeûne, etc., qui va au temple. Et en même temps, il n'a que mépris pour ce publicain là qui est assis au fond de l'église, en tout cas dans le temple. Et la finale de cette parabole est redoutable dans la bouche de Jésus, puisque Jésus dit, eh bien, je vous le dis, ce dernier, c'est-à-dire le publicain, qui n'a eu de cesse de dire « Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis », Tandis que le pharisien, lui, qui fait une espèce de, d'auto-célébration purement extérieure, purement, j'allais dire, factice, quoi. Eh bien, Jésus dit, je vous le dis, ce dernier revint chez lui justifié, hein, ce pauvre publicain, pauvre pécheur, mais qui était en pleine intériorité, en pleine, j'allais dire, célébration pénitentielle. Et Jésus dit, l'autre non. Voilà, l'autre non, c'est-à-dire le pharisien qui n'a eu de cesse de, finalement, de se regarder lui-même et non pas de, de s'engager à l'égard du Seigneur dans une rencontre, j'allais dire, cœur à cœur. Voilà, il me semble que là, on est vraiment au cœur de ce grand mystère qu'est la liturgie, tel que le Concile nous le redonne, ce mystère, nous le montre dans toute son exigence. Alors, je passe maintenant à une parole nouvelle par rapport à ce que j'ai déjà dit. Ce chapitre, je l'ai intitulé « Nécessité de bonne disposition intérieure ». Alors, on retrouvera toujours finalement traité de différentes façons, un peu à la manière d'une symphonie, vous savez, qui reprend toujours le thème de différentes façons, et finalement, on l'attend toujours, ce thème qui fait l'unité d'une grande œuvre, que ce soit musicale ou théologique ou spirituelle. Alors, effectivement, si la liturgie nous invite à une rencontre cœur à cœur avec le Seigneur, ça suppose des dispositions intérieures. Voilà, c'est une espèce de préalable. Alors, ces dispositions intérieures, elles sont suscitées, c'est vrai, par la prédication de Jésus, en tant qu'elle est ensuite relayée par les apôtres, puis leurs successeurs, les évêques, et puis nous, les pasteurs de paroisse, tels que j'ai eu le plaisir de l'être et que je le suis encore. D'ailleurs, je suis toujours curé de paroisse à Barcelonnette, dans le diocèse de Digne. Et j'ai le plaisir et l'honneur, c'est un grand honneur d'être pasteur d'une communauté dans une paroisse de montagne qui est magnifique. Voilà, nécessité de bonne disposition intérieure. Donc c'est toute la, on peut dire, le travail, oui, d'une certaine façon, de la prédication. Et c'est un travail qui échoit en premier lieu au pasteur. Alors, ces dispositions intérieures, on pourrait dire effectivement que la vie liturgique personnelle, comme le disait si bien Saint-Pierre, suppose une conscience droite, une âme droite, une harmonie entre le cœur, notre cœur qui bat, et la voix. La voix qui s'exprime, qui chante, qui loue, qui se déploie dans toute cette beauté liturgique, des sacrements, de la prière, que ce soit la prière communautaire qui est peut-être le sommet de la vie liturgique, mais aussi la prière personnelle, comme tout à l'heure le très très beau chapelet qui était dit sur votre antenne. Voilà, cette harmonie entre le cœur qui bat intérieurement et la voix qui s'exprime, ou avec une sorte de jeu de mots que je me permets, le cœur qui bat et le cœur dans le sens de chorus, la chorale. Voilà. Le cœur en harmonie avec la chorale. Il y aurait en effet un grave risque à ne pas être en accord, en harmonie. Et je voudrais citer une parole assez, j'allais dire redoutable, oui, elle a quelque chose d'assez tranchant, qui est prise dans la deuxième épître aux Corinthiens de Saint Paul, chapitre 6, verset 1, où il traite justement de la messe, de l'Eucharistie. Et il rappelle que celui, celle, qui mange et boit, n'est-ce pas, l'Eucharistie, qui communie, eh bien, s'il n'a pas préparé cette rencontre, voyez, cœur à cœur, dans de bonnes dispositions, pourrait manger et boire, dit saint Paul, sa propre condamnation. C'est assez redoutable cette façon de parler, mais que c'est saint Paul. Hein. Et donc on peut dire que c'est Dieu qui nous invite à ne pas manquer le rendez-vous cœur à cœur dans le cadre de la prière, hein, que ce soit prière grande, prière liturgique, communautaire et au plus haut point l'Eucharistie. Alors je crois qu'effectivement, on risque de manquer ce rendez-vous. Alors, je dirais volontiers que, en retraçant un petit peu l'histoire de la liturgie depuis un siècle, en faisant bref, on est passé peut-être un petit peu de l'extrême à l'autre. Vous vous souvenez qu'en gros, moi, du temps de mes grands-parents me disaient à la messe, à l'époque, on ne communiait pas. Voilà, à la messe dominicale, on ne communiait pas. Les pasteurs nous invitaient à faire nos Pâques, comme on disait. Ça voulait dire au moins, minimum syndical, si j'ose dire, une communion par an avec une confession. Voilà. Et on ne communiait pas à la messe, quelque chose d'aberrant quand on réfléchit. Voilà. Et pourtant, Dieu sait que ce jansénisme qui était encore un peu prégnant au début du XXe siècle et peut-être encore un petit peu jusqu'au Concile, avait quand même été mise à l'index, si j'ose dire, hein, en particulier par le grand pape Saint Pie X, qui avait beaucoup insisté pour redonner le goût de la communion fréquente, hein, inviter les chrétiens à communier, si possible, à chaque messe, bien sûr. C'est comme ça qu'on doit célébrer, bien sûr, la messe, et pas que le prêtre qui doit communier. À s'y préparer, bien sûr. Voilà. Il avait aussi redonné la communion aux petits-enfants. Hein, c'était quelque chose de merveilleux, cette communion aux petits-enfants, totalement en harmonie avec l'Évangile et les paroles si merveilleuses, si profondes de Jésus, disant « laissez les enfants venir à moi », c'est-à-dire « laissez-les venir vers la plénitude du mystère, hein, ne les éloignez pas ». Vous savez que c'était une des rares colères de Jésus dans l'Évangile, sainte colère, hein. Il a chassé les vendeurs du temple, mais il s'est mis en colère contre ses apôtres qui risquaient de mettre un obstacle entre lui et les enfants. Alors on est passé, bon, c'est un petit peu mon expérience de pasteur en ce moment, hein, sans juger des personnes et des consciences bien sûr, ce n'est pas mon propos. Mais on est passé un petit peu d'un extrême à l'autre, où je constate, et je pense beaucoup de mes confrères le constatent aussi, et beaucoup de mes paroissiens me l'ont dit d'ailleurs, tout le monde communie aujourd'hui, mais c'est vrai qu'au confessionnal, on se bouscule beaucoup moins. Voilà. Alors je crois qu'on a raison, hein, vraiment raison de communier à chaque messe, mais quelquefois je me pose des questions vis-à-vis certaines communions où manifestement on voit par l'attitude extérieure qu'on en a perdu l'habitude et que voilà. Donc, sans insister trop sur cet aspect, le Concile nous invite à vraiment faire correspondre le plus profondément possible notre vie liturgique, notre vie de prière, notre vie de foi, hein, et de charité, donc, le plus en harmonie avec notre vie intérieure. Hein. C'est-à-dire nos communions ne peuvent pas être zappées, hein, on ne peut pas communier par hasard comme ça, parce que c'est un jour de mariage, parce que c'est les obsèques, alors qu'on ne vient pas à la messe habituellement, ou qu'on ne s'est pas confessé depuis sa première communion. Enfin, ça peut arriver, j'ai déjà des exemples. Voilà. Mais, alors bien sûr, ça participe d'une bonne conscience, je crois, encore une fois, d'un bon sentiment, d'une bonne intention. Hein. Mais comme on dit, l'enfer peut-être pavé de bonnes intentions. Bon, sans aller jusqu'en enfer, ne soyons pas quand même excessifs. Mais je pense que c'est un aspect vraiment important. Vous voyez, regardons par exemple, dans l'Évangile, encore une fois, ces fameux disciples d'Emmaüs, vous savez, ces deux personnes découragées à la suite de la mort de Jésus sur la croix, qui s'éloignent de Jérusalem, complètement démoralisées, effondrées même, qui abandonnent tout et qui sont rejoints par ce mystérieux personnage dont ils vont découvrir peu à peu l'identité, puisque eh ben oui, c'est le Christ qui les rejoint. Alors c'est très beau de voir comment le Christ s'y prend. Hein. Il réchauffe leur cœur. Il réchauffe leur cœur en commençant par une merveilleuse liturgie de la parole, vous voyez. Hein, en commençant depuis Moïse et les prophètes, n'est-ce pas, en traversant, en faisant une espèce de lectio divina, une lecture spirituelle, en quelques, peut-être une heure ou peut-être moins. Jésus est un rabbin génial, n'est-ce pas, il a le don, en plus d'être le Fils de Dieu, c'est pas mal. Et donc, il réchauffe leur cœur, il les prépare. Ils diront d'ailleurs plus tard, notre cœur était de plus en plus chaud, alors qu'ils étaient passés d'une période complètement, ils étaient prêts à tout abandonner, quoi, hein, à devenir des non-pratiquants. Voyez. Et puis ensuite, il y a cette rencontre, ils insistent pour que ce mystérieux compagnon de route reste avec eux, et à la fraction du pain, ils le reconnaissent. Voyez. C'est la, on peut dire vraiment, c'est la messe, quoi. Une première Eucharistie post-résurrection. Voilà. Merveilleux. Vous voyez, donc, c'est vraiment parce que le cœur a été réchauffé, préparé, vous voyez, qu'on peut rencontrer Jésus. On ne peut pas passer directement comme ça presque, j'allais dire, ils ont perdu la foi, hein, ces gens-là. On ne peut pas passer de rien du tout à directement voilà, à la communion. C'est quelque chose qui est très prégnant dans notre société actuelle où on veut tout, tout de suite. Vous voyez, il y a un petit peu de ça aujourd'hui. Hein. On veut tout, tout de suite. Et puis si on n'a pas tout, tout de suite, comme des enfants capricieux, ben, on envoie tout promener. Il arrive souvent ça. Moi, j'ai entendu plusieurs fois des gens me dire, oui, aux obsèques de telle ou telle personne, j'ai voulu communier, le prêtre a dû voir que je ne savais pas m'y prendre, il m'a posé une question, comme ça m'arrive de le faire parfois, en toute discrétion. Ben voilà, ben, j'ai tout envoyé promener, parce que moi j'étais prêt, etc. Ben oui, il était prêt, mais personne qui... Voilà. Vous voyez, je pense que c'est vraiment du rôle des pasteurs. Les pasteurs ne sont pas simplement des distributeurs de sacrements, vous voyez. Sinon, il suffirait d'imaginer aujourd'hui des espèces de robots. En cette période de confinement, on pourrait imaginer cette horreur, vous voyez, d'un distributeur de communion à la porte des églises. Ce serait aberrant, là. On serait dans la robotisation la plus abominable et ce serait la fin des fins. Non, je crois que le Concile a bien raison, n'est-ce pas, d'inviter les pasteurs à être de bons le mieux possible, n'est-ce pas, avec la plus grande délicatesse. Le pape François insiste beaucoup sur cette dimension d'accompagnement. Il dit par exemple, j'ai beaucoup aimé au début de son pontificat, je vous en supplie, il s'adressait au pasteur directement, là, vraiment au curé, quoi. Il disait, je vous en supplie, ne faites pas de vos confessionnaux des salles de torture. Ah ben non, bien sûr que non, non. Alors, entre la salle de torture et puis un doux accompagnement, hein, comme celui de Jésus pour Emmaüs, il y a quand même une marge. C'est dans cette marge, me semble-t-il, que le rôle du pasteur se situe vraiment. Vous voyez, pour accompagner le mieux possible, encore une fois, les pasteurs sont là, non pas pour donner simplement un sacrement valide, une hostie où il y a la présence réelle, hein, mais une hostie qui va faire fructifier, qui va donner du fruit. Vous voyez, je crois que c'est dimanche dernier où il y avait cette très belle parabole, vous vous souvenez, du maître du domaine qui donnait telle somme à un tel, telle autre à un tel, et puis en leur demandant de les faire fructifier. Hein, et vous vous souvenez que le troisième personnage s'est entendu... être assez gourmandé, hein, par le maître du domaine parce qu'il avait, il n'avait pas fait fructifier, on peut dire, cette hostie. Il avait reçu cette hostie d'une façon, pardonnez-moi, presque matérielle, banale. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui est en jeu ici, qui est vraiment essentiel. Vous voyez. Rappelons-nous, hein, que vraiment le mystère de la liturgie, comme le mystère de la vie chrétienne qui lui correspond très exactement, est un écho à cette dernière parole de Jésus quittant ses apôtres au jour de l'Ascension. « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Voyez. C'est vraiment cette parole. Voyez. J'aime beaucoup le Saint Curé d'Ars qui commençait toujours ses leçons de catéchisme qu'il donnait dans sa petite église, qu'on peut voir encore aujourd'hui, qui a été enchâssée dans la plus grande basilique. Il commençait toujours ses cours de caté hein, en montrant le tabernacle aux enfants et avec une émotion qu'on peut deviner en disant « Il est là, il est là, il est là ». Voilà, tout est dit, il est là. Cette invitation à rencontrer le Christ, à se préparer à cette rencontre. Voilà. Il est là. Et cette promesse est tenue par-dessus tout dans la liturgie. C'est lui que nous venons rencontrer. C'est vraiment cette rencontre avec Jésus. Souvenons-nous, on a cité dans la première aux Corinthiens, chapitre 4, verset 5, où saint Paul dit « Non, ce n'est pas nous-mêmes que nous prêchons, vous voyez, ce n'est pas nous-mêmes que nous célébrons, dans une espèce d'auto-célébration qu'on a pu voir ici ou là, hein, une espèce de caricature de la liturgie hein, qui a existé fut un temps, j'espère que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas nous-mêmes, mais Jésus-Christ, Seigneur, que nous proclamons. C'est vraiment cette dimension divine, surnaturelle, préparée par toute une manuduction, un accompagnement humain aussi. Hein. Le Christ est vrai Dieu et vrai homme. On voit bien comment lui-même s'y est pris avec les disciples d'Emmaüs. Voilà, c'est ce qui nous est proposé. Voyez, à nous, les pasteurs, et leur communauté avec eux, bien sûr, puisque le pasteur ne fait pas tout et toute sa communauté aussi participe ô combien pour sa part, que ce soit dans la catéchèse des enfants, que ce soit dans tous les mouvements d'église, que ce soit par leur témoignage. Rien n'est plus beau que le témoignage de chrétiens, donc de laïcs, étant investis du sacerdoce commun, de voir à quel point ils se préparent intérieurement, extérieurement, à recevoir leur Seigneur et leur Dieu. On le voit, hein, ça crève les yeux, sans faire de cinéma, sans en rajouter. Vous voyez, c'est quelque chose qui se vit dans la discrétion, mais les paroles du pasteur ici sont non seulement relayées, mais elles prennent une dimension merveilleuse. Hein. En tant que pasteur, j'avoue que je suis souvent bouleversé, hein, je pèse mes mots, vraiment bouleversé, presque des fois aux larmes, hein, de voir la qualité de dévotion, encore une fois, sans faire de théâtre, où ça se voit, ça jaillit de l'intérieur, voyez, la façon dont les gens communient avec une grande dévotion. Je parlerai plus tard justement de l'importance du geste liturgique de la communion. Voilà. Voilà, je pense que je vous invite maintenant, chers amis, et moi avec vous, à me poser sur un temps musical pour contempler pour vous et moi, cette façon de vivre avec une intériorité profonde, une dévotion. Voyez, le mot dévotion est peut-être un peu désuet, mais il prend toute sa valeur ici. Hein, dévotion, ça veut dire avec amour, quoi, avec un grand amour du Seigneur. Voilà, eh bien écoutez, effectivement, le propos que j'ai tenu tout à l'heure en essayant de montrer la beauté, hein, vraiment la beauté de cette harmonie entre le cœur et la liturgie, le cœur qui bat. La liturgie donc doit être en effet non seulement rituellement valide, mais spirituellement fructueuse. Vous voyez, un petit jeu de mots entre rituellement et spirituellement. Mais je pense que c'est vraiment un joli jeu de mots qui nous montre à quel point le but, c'est pas simplement de poser un acte valide, quoi. Ni du côté du célébrant, ni du côté de la communauté. Voilà. Et le célébrant et la communauté se retrouvent hein, dans une unité profonde puisque le sacerdoce ministériel du célébrant est appelé à être au service justement du sacerdoce commun. Et on se retrouve vraiment, et rien n'est plus beau qu'une célébration, par exemple eucharistique, lorsqu'il y a cette convergence. Vraiment, là, c'est le paradis, quoi. C'est le paradis sur terre commencé. Voilà. Alors, c'est tout le sens de ce sur quoi les pères du Concile ont beaucoup insisté, qu'ils appellent la participation active. Et participation active, ça veut dire que la liturgie ne serait pas comme un spectacle, si vous voulez, où l'assemblée viendrait s'asseoir et puis commenterait éventuellement l'homélie, la chorale qui chante pas bien, etc. Je ne sais quoi encore. Oui. Comme une espèce de spectacle. Alors qu'on est invité vraiment les uns et les autres à être pleinement acteurs. Je cite ce très beau passage de la prière, d'une des prières eucharistiques où on demande justement, où l'Église et nous demandons que le Seigneur fasse de nous-mêmes une éternelle offrande à sa gloire. Vous voyez ? C'est-à-dire que vraiment, c'est le Christ, bien sûr, qui s'offre encore sur l'autel, mais nous sommes invités à participer vraiment nous-mêmes, comme pierre vivante, hein, dira Saint-Pierre justement, hein, vous êtes les pierres vivantes, n'est-ce pas, qui participent de cette offrande. Et c'est pourquoi on peut dire à ce moment-là, c'est ma messe, quoi. Je suis impliqué. Le saint curé, Padre Pio, disait lorsque je célèbre la messe, ma responsabilité est totalement concerné. Voyez, je ne suis pas une espèce de perroquet qui réciterait, voyez, qui rabâcherait, comme disait Jésus, ne rabâchez pas, qui rabâcherait la prière eucharistique. Voyez, à chaque fois, la messe, le baptême, quel que soit le chapelet, enfin tout me replonge dans quelque chose de totalement nouveau, hein, dans lequel je suis impliqué à chaque fois de façon renouvelée. Il n'y a pas de place pour la banalité. Il n'y a pas de place pour la banalité. Voyez ? Et il faut que ça se sente. Si à un moment donné, une célébration a cette coloration, ou plutôt absence, cette fadeur, vous voyez, ça devient épouvantable, quoi. Ça, pardonnez-moi l'expression, mais ça ne marche pas. Vous voyez. C'est vraiment une plongée. D'où la préparation que suppose. Vous voyez, encore une fois, je ne critique personne, ou plutôt je me critiquerai moi-même, c'est encore mieux, c'est plus facile, mais on ne passe pas de but en blanc comme ça, on ne commence pas de but en blanc une messe, vous voyez. Ça m'est arrivé de me surprendre, bon, parce que par la force des choses, on est en pleine discussion à la sacristie sur des sujets et autres, et puis tout de suite on arrive au pied de l'autel. Non, voilà, il faudrait que les prêtres, moi le premier, nous fassions attention, et que surtout nos amis ne viennent pas dans la sacristie au moment où le prêtre et puis les acolytes et les diacres, enfin tout le monde se prépare. Voyez. Et puis après la messe aussi, l'action de grâce. On ne peut pas passer comme ça. Je suis parfois un peu étonné de voir quelle rapidité certaines personnes passent directement d'un grand recueillement apparent, certainement vrai, et tout de suite on se met à parler comme sur la... Le pape François a eu des paroles terribles, hein, à ce propos, en disant « mais c'est pas possible, j'ai même vu, dit-il, des gens qui prennent des photos, et même des cardinaux qui prennent des photos. » Enfin, vous voyez, il y a un problème là. Et on n'est plus dans la liturgie, on est dans voilà, une espèce de spectacle religieux, quoi. Il faut faire très attention, veiller sur soi-même. Veiller sur soi-même. Voilà, la prière de liturgique est un trésor à préserver, et vraiment le trésor, je crois, à préserver. à préparer, à choyer, à entourer de beauté, de silence, de recueillement, pour que vraiment la liturgie prenne son plein essor et touche les gens. Je disais au début de la présentation du sujet, je disais que la liturgie est l'interface privilégiée aujourd'hui entre les gens, voilà, en général les gens, et le Christ. Nombre de gens aujourd'hui qui ne pratiquent plus, par exemple, bah oui, j'allais dire malheureusement, il y en a de plus en plus, mais qui vont de temps en temps à la messe pour un mariage, un baptême, ou pour les obsèques, etc. Bon, c'est le seul moment de leur vie quotidienne où tout d'un coup, ils sont directement confrontés à la présence de Jésus qui est là. Donc, il faut faire très attention, vous voyez, que la liturgie ne soit pas un filtre, ne soit pas un obstacle à cette rencontre. Voyez. Et l'Église a tout prévu, justement, pour que cette liturgie soit scrupuleusement respectée dans son déploiement. Voilà, j'en dirai quelque chose un peu plus loin. Alors, on peut dire que c'est la prière intérieure qui est vraiment l'âme de la liturgie et qui va m'y faire participer activement. Une liturgie, quelle qu'elle soit communautaire ou personnelle, alors c'est peut-être plus facile personnellement, disons-le, parfois, mais ça ne devrait pas, parce que la liturgie est au contraire une merveilleuse occasion de me booster, c'est-à-dire de me propulser dans le mystère. Vous voyez, si elle vient de la prière et si elle me conduit à une prière encore plus fervente, parce que c'est le but du jeu, si on peut dire, hein, sinon ce ne serait pas la peine, c'est réussi. Alors c'est réussi. Hein. On n'a pas à revenir sur le couac de l'organiste, le couac de l'homélie qui était quand même bon, pas génial, ou que sais-je encore, vous voyez. Non, j'ai prié. J'ai vraiment prié. J'ai vu que chacun il mettait du sien, que monsieur le curé, il mettait du sien avec sa pauvreté, etc., que la chorale, il mettait du sien, que chacun, chacune. Et c'est beau, et voilà. C'est magnifique. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, cette prière qui est vraiment l'âme de la liturgie. Participation active. Alors, le concile nous dit que les pasteurs ont un rôle essentiel pour cela. Georges Brassens disait les copains d'abord, je dirais volontiers, moi, les pasteurs d'abord. Les pasteurs d'abord. La condition première d'une juste et belle liturgie, c'est d'abord que les pasteurs en soient imprégnés de l'esprit de la liturgie, de sa force, de sa cohérence, de sa puissance, n'est-ce pas ? Afin que ce moment ne soit pas comme un passage obligé parce qu'il faut bien qu'il y ait la messe, parce que bon, ben voilà. Non, mais que ce soit le temps fort de la journée, que ce soit le sommet. D'ailleurs, le Concile parle très très souvent de la messe, puisque là, il est question de la messe, hein, comme source et sommet de la vie chrétienne. Vous voyez, source parce qu'elle part de mon baptême, elle s'enracine, elle prend sa source dans ma foi, dans ma vie, dans ma bonne conscience, dans ma purification de mon cœur, de mon corps, de mes mains, etc. Voyez, et puis elle me conduit à un sommet. Voyez, elle me conduit à un sommet. Voyez, donc cette participation active des pasteurs est essentielle. Voyez. J'ose dire, voilà ce petit témoignage personnel, j'aime profondément, bien sûr, je suis pasteur dans une vie paroissiale, j'aime profondément m'occuper des jeunes, je suis aumônier scout depuis 35 ans, j'ai fait beaucoup de camps, je fais du PLVTT, Lourdes, Thésée, j'en passe, et des meilleurs, j'aime énormément rencontrer les gens, j'aime, enfin, bon, que tout ce qu'un pasteur de paroisse aime au niveau des rencontres, des témoignages, etc. Bon, c'est sûr. Mais j'ose dire, chers amis, que c'est vraiment la messe qui est pour moi le sommet. Et quand ce sommet arrive à être voyez, en harmonie avec ce que j'ai vécu, avec ma communauté, avec ce que j'ai vécu avec les scouts, avec dans un pèlerinage. Alors, encore une fois, là, c'est le paradis, vous voyez, parce que c'est le paradis des pasteurs. Voilà, hein. C'est magnifique. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si je vous avais parlé autrefois de ce sommet de la messe qui a été présenté par un grand témoin de cet amour de la Sainte Messe, de la liturgie, je crois, qui était le Padre Pio. Alors, le Padre Pio, moi, je n'ai pas eu l'honneur de participer à sa messe, mais j'ai vu sur Internet des images absolument bouleversantes de les dernières messes qu'il est célébré, n'est-ce pas, avec, où il est allé puiser ses dernières forces physiques alors qu'il était dans cette situation extrêmement humiliante pour lui, en tout cas, hein, des stigmates, etc. Voilà. Et là, on était vraiment au sommet, quoi. On était au Golgotha. C'était Jésus qui était à l'autel et qui priait. Vous voyez, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'homélie, je crois même pas du tout, parce qu'il n'arrivait plus à prêcher à la fin. Il n'y avait pas de chant. Il y avait très peu. Il allait puiser dans ses dernières forces pour prononcer la prière eucharistique. Mais les gens qui étaient là, qui attendaient depuis la veille ou quelquefois depuis une semaine pour être là au pied de l'autel, ben voilà, Jésus était là, quoi. Et tout le monde était plongé littéralement dans le mystère. Vous voyez, ben c'est ça la messe. Voilà, c'est ça la messe. On doit tendre à cela. Vous voyez. Et je témoigne, alors je ne suis pas le Padre Pio, loin de là, mais je ne suis pas stigmatisé non plus, et c'est tant mieux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, le moment le plus fort de ma vie quotidienne, je le dis, sans minimiser tous les autres, ne séparons pas ce que Dieu a uni, ce serait ridicule, vous voyez. De faire des degrés, mais quand même, hein, le moment le plus beau, le plus sublime, c'est les moments liturgiques, voilà, où tout y est, l'assemblée, la foi, la prière, Jésus par-dessus tout avec nous, pour nous, offert. Et encore une fois, on peut dire que là, c'est vraiment on est au sommet. Voilà. C'est pour ça que je crois que le Concile a bien fait de mettre cette constitution en tête, justement, de toutes les constitutions, et de l'appeler Sacrosanctum Concilium, vous voyez, le Sacro-Saint Concile, comme s'il nous indiquait, là, dans cette constitution sur la liturgie, hein, c'est son enseignement sur la liturgie, qui a tout le Concile, finalement. Hein. Tout le cœur du cœur du Concile se trouve là, vous voyez, dans cette invitation à nous retrouver au sommet de notre vie chrétienne. Voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui, chers amis, et j'espère qu'on pourra continuer ensemble la prochaine fois, où j'aborderai les principes de la restauration de la liturgie tels que les pères du Concile le souhaitaient.
En tout cas, un grand, grand merci, Père François Marot, pour ce temps que vous avez offert à nos auditeurs. Merci de nous faire apprendre et aimer davantage la liturgie.
Eh bien, écoutez, c'est mon plus grand plaisir de l'avoir partagé avec vous.
Merci, en tout cas, et à très, très bientôt en union de prière, Père.
Également, merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au revoir.